Oui, c'est une joie d'être tous ensemble, c'est une joie de pouvoir louer Dieu ensemble. C'est aussi toujours une joie de pouvoir apporter quelque chose de la parole de Dieu et pouvoir le partager ensemble. Et puis, je trouve aussi drôle ces dimanches d'été parce que je pense qu'il y a presque autant de personnes qui sont en visite que de personnes qui sont là habituellement. Mais on est vraiment content que vous soyez là. Vous êtes les bienvenus et on est content de pouvoir vivre ensemble ce temps, louer Dieu ensemble et nous mettre ensemble à l'écoute de sa parole. Alors ce matin, j'ai prévu une prédication qui va parler du salut par la foi et puis de la place de la loi. Donc ça va être basé sur un passage dans l'Épître aux Galates, le chapitre 3, les versets 1 à 14. Et puis ceux qui ont une Bible sous la main, je vous encourage à l'ouvrir et puis à la garder sous les yeux parce que je vais pas mal rester là-dessus. Donc, c'est un passage qui nous aide à nous positionner par rapport à la loi et aussi un peu à toutes ces espèces de règles qu'on peut être tenté de se mettre quand on est chrétien et qu'on cherche à bien faire. Oui, donc c'est dans Galates 3, les versets 1 à 14. Et puis, je vous avertis aussi que je vais le dire avec le ton. Et puis le ton risque d'être un peu vigoureux parce que Paul est relativement fâché dans ce passage. Et c'est pas parce que je pense que vous avez besoin d'être secoué, mais que je pense que c'est quand même bien de rendre un petit peu l'état d'esprit où Paul écrit là-dedans. Et puis je vous dirai quelques éléments de contexte après la lecture du passage parce qu'il y a une partie du contexte où en fait c'est en lisant l'Épître aux Galates, on comprend ou devine un peu ce qui est en train de se passer. Du coup, je préfère vous lire le texte, ensuite expliquer un peu ce qui se passe et puis voir ce que Paul en fait et ce qu'on peut en tirer pour nous. Donc, Galates chapitre 3 versets 1 à 14. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous? Aux yeux de qui a été dépeint Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Alors maintenant, pour donner un peu de contexte, je vais commencer par le grand contexte, le contexte dans l'histoire de ce que Dieu a voulu faire avec l'homme. Donc, tout au début, les hommes se sont détournés de Dieu. Les hommes sont entrés en rébellion contre Dieu et ont été séparés de lui. Et il y a environ 4000 ans, Dieu a parlé à Abraham. Il lui a promis de lui donner une grande descendance. Il a promis de faire de cette descendance son peuple, le peuple de Dieu. Il a promis de bénir toutes les nations de la terre au travers de cette descendance d'Abraham. Dieu avait aussi donné à Abraham la circoncision comme signe pour marquer l'alliance entre Dieu et ses descendants. Et donc la descendance d'Abraham est devenue le peuple d'Israël. Environ 400 ans plus tard, Israël a reçu la loi avec un grand L. C'est ce qu'on appelle aussi la Torah ou la loi de Moïse. Et donc cette loi donnait toutes sortes de règles de comportement. D'un côté, elle montrait comment il était bon d'agir d'après Dieu. Et d'un autre côté, elle donnait aussi diverses règles qui marquaient la différence entre Israël et le reste des nations. Entre Israël et les nations qui ne connaissaient pas Dieu, les nations qui adoraient des faux dieux. Il y avait pas mal de règles, aussi des règles alimentaires, des règles de pureté, dont le but était de montrer que Israël était différent de toutes ces nations qui adoraient des idoles, pour que ce que Dieu était en train de faire avec Israël ne soit pas mélangé avec ce qui se passait dans les nations d'alentour. Et puis, ensuite, Jésus est mort et est ressuscité. Le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, l'Évangile, a été prêché aux Juifs et aussi aux non-Juifs. Et les Galates font partie de ces non-Juifs qui ont entendu l'Évangile. Les Galates, c'est les descendants d'un grand nombre de Gaulois qui avaient émigré depuis environ le Massif central jusqu'au centre de la Turquie. Je ne sais pas si les Français ont raison de dire nos ancêtres les Gaulois, mais les Galates, en tout cas, ils pouvaient. Donc, les Galates, c'est des gens à qui l'apôtre Paul avait annoncé l'Évangile. Les Galates avaient cru en Jésus-Christ, ils avaient reçu le Saint-Esprit et aussi vu des miracles. Alors maintenant, si on vient à la question du moment, sur la question qui fait que Paul a besoin de le réécrire, et même de réécrire un peu vigoureusement. Il y avait des enseignants itinérants qui amenaient un message différent de celui de Paul. C'est ce que Paul appelait un autre évangile au début de la lettre. Donc ces enseignants, c'était des Juifs qui étaient devenus chrétiens. Et leur discours, ça devait être à peu près la chose suivante. Il devait dire en gros, alors ok, les païens se sont tournés vers Dieu grâce à Jésus-Christ. Ils peuvent faire partie du peuple de Dieu. Mais comment est-ce qu'on montre qu'on fait partie du peuple de Dieu? Eh bien, on se fait circoncire. Comme ça, on montre qu'on fait maintenant partie de la descendance d'Abraham. Et puis la suite logique, si on fait partie de la descendance d'Abraham, si on fait partie du peuple de Dieu, eh bien, on doit mettre en pratique la loi de Moïse. Comme ça, on montre qu'on fait partie de ce peuple et puis qu'on s'est distingué des nations sans Dieu. Et puis, beaucoup de rabbins de l'époque, donc même avant Jésus-Christ, pensaient que Abraham, alors il n'avait pas reçu la loi de Moïse puisque Moïse vient plus tard, mais quand même Dieu lui avait montré ce qu'il fallait faire et puis Abraham, sans avoir la loi écrite, devait bien mettre en pratique toute cette loi. Donc bref, des gens sont venus expliquer aux Galates qu'ils devaient se faire circoncire et pratiquer la loi de Moïse pour être vraiment le peuple de Dieu, qu'ils devaient faire tout ça pour être les descendants d'Abraham et pour profiter de la bénédiction qui était promise à Abraham. Et puis, peut-être qu'on peut avoir aussi des fois des gens qui disent plus ou moins ça quand on est chrétien, c'est-à-dire, ok, vous êtes devenu chrétien, vous êtes le peuple de Dieu, par la foi, vous êtes réconcilié avec Dieu. Mais maintenant, pour montrer que vous l'êtes vraiment, eh ben, il va falloir faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, suivre toutes ces règles, et puis sinon, on ne croit pas vraiment que vous faites partie. Mais donc, face à ces gens qui disent que les Galates devraient observer toute la loi, Paul dit non. Il dit que non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il le fait en trois étapes. Donc, d'abord, il commence par faire appel à l'expérience des Galates. Il leur rappelle ce qui s'est passé pour eux. Donc ça, c'est les versets de 1 jusqu'à 5. Ensuite, il montre que la foi, c'est le principe vraiment important, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il occupe dans les versets 6 à 9. Et la troisième chose, eh ben, au verset 10 à 14, il va parler de la loi et puis montrer aux Galates qu'est-ce que ça veut dire de se mettre sous le système de la loi. Donc, au niveau de l'expérience, les Galates ont déjà reçu le Saint-Esprit. Ils ont vu des miracles se produire au milieu d'eux. Et puis, la question de Paul est assez simple. C'est, est-ce que c'est arrivé parce que vous pratiquez la loi, ou bien est-ce que c'est arrivé parce que vous avez écouté le message de l'Évangile avec foi? Et Paul sait très bien ce qu'il en est. Les Galates ont tout reçu en écoutant l'Évangile sans pratiquer la loi. Donc, la loi n'est pas et ne peut pas être la condition nécessaire pour recevoir les bénédictions promises au peuple de Dieu et à la descendance d'Abraham. Et là, normalement, les Galates, ils ne peuvent pas nier ça parce que c'est ce qui s'est passé pour eux. Et ensuite, puisque on se réfère pas mal à Abraham, eh ben, Paul vient sur la personne d'Abraham. Il cite le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 6, si jamais, qui dit qu'Abraham a cru en Dieu et que cela lui a été compté comme justice. Donc, Abraham n'était pas forcément un exemple de comportement. Et puis, si vous lisez dans la Genèse, vous verrez qu'il a fait son lot de grosses bêtises. Mais Abraham a cru ce que Dieu lui disait. Et parce qu'Abraham a cru, Dieu lui a donné un juste statut devant Dieu. Dieu a reconnu Abraham comme quelqu'un qui faisait partie de son peuple, quelqu'un qui était en relation avec lui. Et l'argument de Paul, c'est que quand Dieu promet de bénir toutes les nations par Abraham, eh ben, il ne promet pas de bénir les nations par un autre moyen qui allait venir plus tard, la loi, mais il promet de bénir les nations par le même moyen par lequel il a reconnu Abraham comme juste, c'est-à-dire la foi dans ce que Dieu dit. Donc c'est ceux qui croient comme Abraham qui reçoivent les bénédictions promises à Abraham. Et cette bénédiction concerne toutes les nations, pas seulement Israël. Il n'y a pas besoin de devenir une partie du peuple d'Israël avec toutes les règles de comportement des Juifs pour profiter de la bénédiction à Abraham. Et c'est par la foi qu'on reçoit un juste statut devant Dieu et qu'on reçoit la bénédiction d'Abraham. Et maintenant, si on regarde ce que Paul dit sur le système de la loi, eh ben, il commence en citant un passage du Deutéronome. « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Donc la loi dit ce qu'il faut faire. Elle dit « Tu dois faire ça ». Ça c'est bien, ne fais pas ça, etc., etc. Et le grand problème de la loi, c'est que les hommes ne la respectent pas. Tout le monde transgresse ce que la loi demande. Et quand on ne fait pas ce que la loi dit, ben, la seule chose que la loi peut faire, c'est dire « tu as mal fait, c'est pas bien, tu es coupable ». Et la loi prévoit des sanctions contre ceux qui ne respectent pas ce qu'elle dit. La loi dit que celui qui fait mal est maudit. C'est ça que Paul appelle la malédiction de la loi. Mais il faut bien noter que la loi ne fait pas ça parce que la loi est mauvaise et puis que c'est quelque chose de tordu. La loi a raison de faire ça. C'est vrai qu'on fait du mal. C'est vrai qu'on ne fait pas ce qu'on devrait. Et c'est vrai qu'on mérite d'être maudit. Quand elle fait ça, la loi ne se trompe pas, elle n'abuse pas, elle fait exactement son travail. Le job de la loi, c'est d'ordonner le bien et de condamner le mal. Mais nous, on n'arrive pas à toujours bien faire. Et si on dépend du système de la loi, on est mal. La loi nous condamne et la loi ne peut rien faire d'autre pour nous. Le système de la loi, il dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il faut faire ce que la loi dit pour vivre devant Dieu et pour avoir le bon statut. Mais Paul cite par contre le prophète Habacuc qui dit, le juste vivra par la foi. Il y a le principe de la foi en Dieu et il y a la loi qui pose un autre principe qui dit vivre en faisant ce que la loi ordonne. Donc, comme la loi pose un autre principe que le principe de la foi, la loi ne peut pas être le bon système pour nous mettre en ordre avec Dieu. C'est pas parce que la loi est mauvaise, mais c'est parce que nous, on est mauvais et que la loi ne donne pas de bons moyens pour gérer ça. Mais alors, si la loi nous condamne et qu'elle a raison de le faire, comment est-ce qu'on peut s'en tirer? Quelle issue est-ce qu'on a? C'est là que la mort de Jésus intervient. Jésus, c'est Dieu qui est devenu un homme, c'est Dieu qui a pris la nature humaine. Lui, il a parfaitement obéi à tout ce que Dieu demandait, à toutes les justes demandes de Dieu. Lui avait un vrai statut de justice devant Dieu, mais lui, il a pris un statut de malédiction qu'il ne méritait pas. La loi dit que quelqu'un qui est suspendu à un arbre est maudit, et Jésus est devenu ça en mourant sur la croix. La loi dit que nous, on méritait d'être maudits. Jésus ne le méritait pas. Mais Jésus est devenu ce qu'on méritait d'être pour que nous, on devienne ce qu'il était, c'est-à-dire juste devant Dieu, acceptable devant Dieu, accepté par Dieu. Jésus a pris la malédiction qui nous revenait pour qu'on soit libéré de la malédiction de la loi. Il fallait que Jésus enlève l'obstacle de la loi qui nous condamne pour qu'on reçoive les promesses faites à Abraham par la foi en Jésus-Christ. La loi ne pouvait pas nous mettre en ordre avec Dieu, mais Jésus l'a fait pour nous tous qui croyons. Et là nous disons, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il y a encore une question qui se pose. Et pour la mettre en évidence, je vais revenir sur Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Donc là, quand Paul parle de la chair, il veut dire la nature humaine qui veut se débrouiller sans Dieu. La nature humaine qui s'appuie sur ses propres forces. Et Paul met ça en lien avec la question de la loi. Parce que se mettre sous la loi, c'est faire confiance à nos capacités pour obéir aux demandes de la loi. Et là où le texte dit « finir par la chair », dans cette traduction, on peut aussi traduire « être achevé » ou « être rendu parfait par la chair ». La question, c'est comment est-ce qu'on progresse? Comment est-ce qu'on devient ce que Dieu veut qu'on soit aussi dans notre comportement? Parce que si on est mauvais, Dieu veut qu'on soit réconcilié avec lui, Dieu veut qu'on soit sauvé, qu'on soit en relation avec lui, mais ça serait quand même étonnant qu'il veuille qu'on reste mauvais. on peut quand même s'attendre à ce que Dieu veuille aussi qu'on change et puis qu'on devienne meilleur. Et je suis absolument convaincu que c'est aussi le meilleur pour nous. Et donc c'est logique de le chercher. Mais la tentation pour les Galates, ça pourrait être de dire, on a cru, on a rejoint le peuple de Dieu par la foi et par l'esprit, mais maintenant, pour bien nous comporter et pour faire ce qui est agréable à Dieu, il faut qu'on obéisse à la loi. C'est la loi qui va maintenant nous dire comment bien faire devant Dieu. Mais pour Paul, c'est absurde. Parce que si leurs propres capacités ont été incapables de les amener jusqu'à Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent croire que tout à coup, elles vont leur permettre d'obéir à la loi et de bien agir? Si la chair est incapable d'amener l'homme jusqu'à Dieu, comment est-ce qu'elle serait capable de le transformer? Mais pourtant, des fois, comme chrétien, j'ai l'impression qu'on peut tomber dans le piège de voir des choses un peu comme ça. Je pense que ça m'est déjà arrivé de penser et d'expliquer, j'ai été sauvé par la foi, par la grâce, et c'est gratuit. Mais maintenant, il faut aussi que ma vie soit transformée, et pour ça, il va falloir cravacher. Il va falloir changer, et là, c'est mes efforts, et ça dépend de mes efforts, et puis si je fais pas, et puis si je fais pas assez bien, eh bien je ne deviendrai pas ce que Dieu veut que je sois. C'est mes efforts d'obéissance qui vont m'améliorer, ça dépend de moi, et le poids repose sur mes épaules. Mais quand on pense aux choses comme ça, eh bien, on est exactement en train de commencer par l'esprit et par la foi, et de vouloir finir par la chair, de vouloir finir par nos propres forces et nos efforts. Et quand on prend ce fardeau-là sur nos épaules, eh bien, ça ne fera pas très longtemps avant qu'on se retrouve écrasé, parce que on se rend compte que nos propres efforts, eh bien, ils ne nous transforment pas et ils ne nous amènent pas où on doit. Et puis la malédiction de la loi, tout à coup, on la retrouve en face de nous. Mais si on n'est pas sous la loi et que nos efforts ne nous permettent pas de nous améliorer, est-ce que ça veut dire qu'on va faire n'importe quoi? Ben, bien sûr que non. Et là, je lis un peu plus loin, dans Galates 5, les versets 13 à 18. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Là, je refais une précision sur le mot chair. C'est toujours la nature humaine sans Dieu dont Paul parle. Tout à l'heure, Paul en parlait souvent de ce que la chair arrive à faire, des capacités de l'homme sans Dieu. Mais ici, quand il parle des désirs de la chair, il parle plutôt de ce que la chair veut faire, de ce que nous, on veut faire naturellement si Dieu ne nous conduit pas. Et ce qu'on veut faire quand Dieu ne nous conduit pas, eh bien, très souvent, ça s'oppose à la volonté de Dieu. Donc Paul souligne qu'on est appelé à la liberté, pas à un esclavage de règles à accomplir. Mais cette liberté ne doit pas être un prétexte pour pécher, ne doit pas être un prétexte pour mal faire. Et la solution pour vivre de manière agréable à Dieu, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est de laisser Dieu nous transformer dans tout notre être. Et l'Esprit qui a commencé le travail en nous permettons d'avoir la foi, en nous permettant d'être réconciliés avec Dieu, et bien aussi continuer le travail en nous transformant dans notre cœur. Et donc, pour être transformé, eh bien, c'est comme pour être sauvé, il nous faut faire confiance à Dieu et laisser Dieu agir en nous. L'objectif de la loi est atteint si nous nous aimons les uns les autres. Mais le système de la loi ne permet pas d'atteindre cet objectif. On a besoin d'être transformé en profondeur, et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Mais en disant ça, il pourrait encore y avoir un risque. C'est que nous disions, ah bon, ben, donc maintenant je suis conduit par l'Esprit, alors je fais tout ce qui me passe par la tête, et puis ça devrait être bien, et puis que ça devienne justement un prétexte pour faire tout plein de mauvaises choses, et puis en fait d'être conduit par la chair en prétendant que c'est l'Esprit. Alors pour éviter ça, Paul donne encore après des exemples de ce qui vient de la chair et de ce qui vient de l'Esprit, pour qu'on ait un peu une ligne directrice pour faire le tri. Donc là, je lis dans Galates 5, 19 à 23, donc juste à la suite du précédent passage. « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. » L'apôtre donne bien des choses que la chair tend à produire et des choses que l'esprit produit. Avec ça, ça devient un peu plus difficile de tout confondre et de tout mélanger. Mais Paul n'a pas donné une nouvelle loi, une nouvelle liste d'actes détaillés qu'il faut faire et d'actes détaillés qu'il ne faut pas faire. Il donne plutôt des grandes lignes directrices qui vont laisser pas mal de place au discernement personnel et justement où on aura besoin d'être conduit par l'Esprit pour voir si ce qui est vraiment en train de se passer en nous vient de la chair ou vient de l'esprit. Et c'est pas juste une liste où on peut vérifier et mettre des coches si on suit ou pas. Et puis, pour nous, ça peut être tentant d'avoir justement une liste des choses qu'on doit faire et une liste des choses qu'on doit pas faire, parce que ça nous permet de suivre la liste, de mettre des coches, et puis si on n'a pas de coche dans la mauvaise colonne, et on se dit, ça y est, je suis en ordre, je suis confortable, je suis en sécurité. Et puis donc on tire un petit peu notre sécurité de notre capacité à accomplir toute la liste de choses qu'on est censé faire. Alors qu'avec des principes généraux comme Paul nous les donne là, on n'est jamais si sûr que ça. Parce que quand on se demande, est-ce qu'il y a de l'orgueil ou est-ce qu'il y a de la jalousie dans la manière dont je réagis? Est-ce que j'ai toujours fait preuve de douceur? Est-ce que j'ai été patient? Est-ce que j'ai toujours été bienveillant avec les autres? Il y a des fois où on se rend compte que ça y est pas tout à fait et qu'il y a un problème. Mais on peut... c'est beaucoup plus facile de savoir si on a mangé du porc ou pas mangé du porc, si on a tué, volé, menti ou pas, que de savoir si on a manifesté ces choses-là. Du coup, on ne peut pas tirer notre confiance de notre manière de mettre les consignes en pratique. Mais ce n'est pas grave, parce que notre confiance, elle ne vient pas du fait qu'on met les bonnes choses en pratique. Ça, c'était le risque du système de la loi. Notre confiance, elle vient de ce que Jésus est mort pour nous, qui nous a rachetés de la malédiction de la loi et qu'on est réconciliés avec Dieu par lui. Donc, la dose d'incertitude qui vient de ces consignes générales, on peut la gérer devant Dieu parce que notre statut ne dépend pas de savoir si on a tout bien fait. Par contre, ça nous donne une direction pour avancer, ça nous dit un peu où Dieu veut qu'on aille et comment il compte travailler en nous. Et puis on peut collaborer avec lui, mais pas en pensant que tout repose sur nos épaules et nos propres forces. Et ça, je crois que c'est satisfaisant de voir qu'on avance et que Dieu travaille en nous sans être écrasé du poids de tout ce qu'on est censé faire et du poids d'y arriver par nous-mêmes. Alors, voilà, j'arrive au moment de conclure, de redire un peu le gros de ce que je pense qu'on peut tirer de ce passage. Donc la loi peut nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on devrait faire, mais au final, elle nous dit qu'on ne l'a pas fait et qu'on est coupable. Et c'est vrai si on se met sous la loi de Moïse, et c'est vrai, n'importe sous quel système de règles on se met, de toute façon, il y aura un moment où nos règles nous diront qu'on est coupable et qu'on n'a pas fait ce qu'on devrait. Sans une transformation du cœur, on sera toujours des transgresseurs, on sera toujours coupable. Et la loi fait connaître le juste jugement de Dieu sur les transgresseurs. Nous sommes dignes d'être maudits. Mais cette malédiction, Jésus l'a prise sur lui en se mettant dans une situation où, d'après la loi, il était maudit. Il a pris notre statut de transgresseur maudit pour que nous devenions des justes réconciliés avec Dieu. Et c'est par la foi que nous nous approprions ce que Jésus a fait. La foi en Dieu et en Jésus-Christ est suffisante pour nous marquer comme les gens que Jésus a réconciliés avec Dieu, comme le peuple de Dieu. Cela, Dieu l'avait déjà anticipé en annonçant qu'Abraham était considéré comme juste parce qu'il avait cru en Dieu et en annonçant que toutes les nations seraient bénies par Abraham. Et à la question « Comment bien vivre en tant que peuple de Dieu ?» il y a une fausse réponse qui est « Maintenant que tu es en ordre avec Dieu par la foi, tu peux faire des efforts pour obéir à un ensemble de règles. » Et puis il y a la réponse de Paul. « Maintenant, Dieu te donne par l'Esprit la capacité d'être transformé dans ton cœur et de produire un autre mode de vie que celui que tu avais jusque-là. Tu as commencé en croyant en Dieu. Tu peux continuer et progresser toujours en faisant confiance à Dieu, qui transforme ton cœur pour produire des bons désirs et pour produire une vie transformée. » Alors, que Dieu nous éclaire, qu'il nous conduise par son Esprit pour qu'on puisse vivre la vie transformée à laquelle il nous appelle, dans la liberté, sans nous remettre sous un esclavage et sans non plus nous laisser détourner par les désirs de la chair qui nous éloignent de lui. Que Dieu soit avec nous et nous accompagne. Amen.